Frère Jean-Michel Bortheiry, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous.
Vous êtes moine de Belloc depuis peu finalement, puisque vous avez prononcé vos vœux définitifs, votre profession solennelle le 8 mai 2025. Racontez-nous comment vous êtes arrivé ici, puisque vous avez un nom basque, mais vous avez beaucoup bourlingué, je crois, avant d'arriver à ce monastère.
Ouais, c'est vrai. En fait, je suis revenu au pays depuis après 50 ans d'absence, puisque je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Ailette, que beaucoup connaissent. Mais j'ai vécu ma vie apostolique et missionnaire, surtout dans le Limousin, dans la Creuse précisément, et aussi en Afrique, dans un pays qui s'appelle le Tchad. Et après avoir vécu 5 ans et demi à l'abbaye de Tournai, je suis arrivé donc à l'abbaye de Belloc, que vous connaissez.
Donc au départ, vous aviez une vocation missionnaire que vous avez toujours finalement d'une manière différente. Vous vouliez partir en Afrique, c'est ce que vous avez fait, et puis vous avez été missionnaire en Creuse puisque c'était une vraie mission d'évangélisation en Creuse.
Oui, c'est ça. On peut dire que dans ma vie, le fil rouge, c'est effectivement la mission. Depuis tout petit, j'ai eu le projet ou l'idée de partir en Afrique comme missionnaire. Et ça se pratiquait chez beaucoup d'enfants à cette époque-là. Et finalement, j'ai réussi à réaliser ces vœux initiaux, puisque j'ai pu partir en coopération d'abord. Et ensuite, comme prêtre fidei donum, c'est-à-dire prêté par le diocèse de Limoges, où j'étais incardiné, pour deux diocèses au Tchad, Sarre et Koumra, où je suis resté 9 ans, tout en étant relié au diocèse de Limoges, mais pas au diocèse de Bayonne.
Voilà, vous étiez un cardinal au diocèse de Limoges, et puis après vous y êtes revenu, vous avez été curé de différentes paroisses.
Voilà, j'ai été curé, donc d'abord. Enfin, j'ai surtout été à Guéret et Aubusson, et ensuite curé de paroisse à Imoutier et Gouzon. Alors, c'est des villages, petits villages, que nous ne connaissons pas forcément, mais sur des grands territoires ruraux où la population est très dispersée, et aussi une population qui est en attente, hein, pour laquelle nous avons accompli beaucoup de services et d'accompagnement, de réalisation aussi. Pour permettre à tous d'évoluer en commun, quelles que soient les convictions religieuses, parce que les catholiques étaient très minoritaires, il n'y avait pas non plus d'autres religions marquées, mais beaucoup de, non seulement d'indifférents, mais surtout des personnes qui étaient en retrait vis-à-vis de toute religion, et avec qui nous avons pu travailler vraiment et permettre que un meilleur soit possible pour tous.
Vous étiez vraiment dans une sorte de désert religieux, on peut le dire. Comment est-ce que vous avez fait pour créer du lien, pour apporter le Christ à toutes ces personnes que vous avez rencontrées?
Oui, alors, c'est-à-dire tout de suite me mettre en lien avec des personnes déjà ferventes et avec elles se mettre en relation avec le quiconque. Nous avons lancé beaucoup de lectures, de groupes de lecture d'évangile dans les maisons. On se réunit régulièrement pour lire l'évangile, mais pas seulement lire, travailler le texte d'évangile. Pas forcément avec des gens de la foi, d'ailleurs, parce que quand on arrive dans des maisons, dans ces maisons, il y a une personne croyante, mais il y en a d'autres qui ne sont pas croyantes. Mais tout le monde participe à ces lectures. Et donc, nous avions beaucoup de groupes qui ont permis de créer un réseau et un vivier même, je dirais, de personnes plus engagées, qui devenaient missionnaires dans leur village et qui réunissaient d'autres personnes pour différentes petites liturgies, temps de prière, célébrations, et qui associent ainsi à la base d'autres personnes qui étaient écoutées, qui étaient comprises et reliées justement. Et c'est comme ça qu'on a travaillé.
Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années que vous avez passées donc dans le diocèse de Limoges et que vous avez quitté maintenant?
Alors, ce que je retiens, ce que je garde de cette région, c'est que c'est beaucoup d'espérance. On était dans des conditions de vie très précaires, enfin économiquement, sociologiquement, je dirais même démographiquement, religieusement, mais en même temps, beaucoup de ressources cachées qu'on essayait de repérer. Et on a découvert ainsi que Dieu travaille le cœur des gens. Dieu est présent, Dieu nous précède à tout lieu Et si nous essayons d'écouter ce que fait Dieu ou de voir ce qu'il fait, à ce moment-là, les choses sont très faciles. Elles sont pas à notre niveau. Nous, on a des idées, on a des projets, on calcule, on a des tas de programmations. Mais lui, Dieu, il travaille autrement. Et donc, il s'agit de repérer. Et ainsi, quand on repère comment il fait, eh ben, tout marche beaucoup mieux et soi-même, on est rempli de joie.
Et puis donc, tardivement, on peut le dire, vers 54 ans, vous avez reçu un appel à la vie monastique. Comment ça s'est passé? Comment vous pouvez expliquer cela?
Alors en fait, c'est vrai, en fait, il y avait des préparations, bien sûr. J'avais déjà accompli tous mes projets, tous mes désirs étaient déjà accomplis, donc j'étais avec un cœur ouvert, sûrement. Je vivais dans des zones assez désertiques aussi, hein, donc il y a un éveil aussi à cette vie du désert, à la prière davantage. Et puis, comme je fréquentais les monastères pour des retraites que je donnais, par exemple, eh bien, j'ai eu un appel très précis, oui, dans un de ces monastères, pour venir consacrer ma vie à la vie monastique. Oui, ça a été très clair, mais il a fallu discerner et il a fallu surtout que les personnes avec qui je travaillais et les autorités avec lesquelles j'étais, mes responsables, acceptent cette idée que cette idée était vraie.
Donc vous avez discerné plusieurs années, vous êtes allé d'abord à Tournai, pas très loin d'ici, et puis finalement c'est à Belloc qu'a vraiment éclos votre vocation pour être moine. Ça a duré combien d'années cela?
Eh bien, 9 ans d'attente pour avoir le feu vert de mon évêque. Ensuite, 5 ans et demi à Tournai. Et puis finalement, arrivé à Belloc, où c'était l'appel qui était le mien au point de départ. Donc, on pourrait dire presque une quinzaine d'années.
C'est un gros changement de passer de curé d'une paroisse avec une vingtaine de communes à moine dans un monastère où vous avez une vie plus stable. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes heureux?
Alors, on passe du tout au tout, hein, on change complètement, ça n'a rien à voir, je dirais, physiquement, extérieurement, ça n'a rien à voir, bien sûr. Autant quand on est en paroisse, enfin responsable de paroisse, on est toujours devant. Bon, moi j'étais dans un département, je connaissais tout le monde. Moi, quand le préfet venait dans une commune, et si j'étais dans cette. Il commençait par me saluer publiquement, donc il me repérait déjà, je dirais. C'est pour dire qu'on était dans un contexte où on est visible. Et bien quand on entre au monastère, c'est l'inverse. On va dans l'invisibilité, c'est-à-dire on n'est pas devant, mais on est derrière. Il s'agit d'entrer dans une autre démarche intérieure, plus intériorisée, plus humble, je dirais, de renoncement, de renoncer d'abord à sa volonté propre, à son vouloir, et se mettre un peu au diapason des autres, écouter Dieu, écouter sa parole, écouter ses frères. Voilà, donc c'est toute une autre démarche, mais en même temps qui produit beaucoup de bonheur parce que ben, on n'a plus de charge, on n'est plus chargé inutilement, enfin je dis pas inutilement, mais du moins quelquefois on se rajoute des charges inutilement, il me semble. Et du coup, là on découvre que c'est le Seigneur qui prend tout et donc il faut se mettre à sa suite.
Et puis donc vous suivez la règle de Saint Benoît. Qu'est-ce que c'est exactement que cette règle? Pourquoi est-ce que c'est celle-là que pour laquelle vous avez été appelé?
Oui, exact. C'est-à-dire que la règle de Saint Benoît date du 6e siècle. Donc ça fait 15 siècles qu'elle existe. On pouvait être tenté, comme moi j'ai été tenté aussi, peut-être avoir des nouvelles communautés, des nouvelles communautés monastiques. Mais j'ai préféré vraiment aller à la tradition, c'est-à-dire vivre la règle traditionnelle de Saint Benoît. Et ça, c'est une règle qui est assurée. Alors qu'est-ce que c'est que cette règle? Eh bien, c'est un code de conduite, on pourrait dire, c'est-à-dire des outils de l'art spirituel, comme dit Saint Benoît lui-même, pour essayer de chercher Dieu, se mettre à la recherche de Dieu. Dieu est là, mais soi-même n'est pas au diapason de Dieu, donc il faut vraiment le chercher. Et pour cela, eh bien, on a un mode de vie que la règle nous indique, dans une vie de silence, une vie d'obéissance, une vie d'humilité, et on trouve ainsi son bonheur.
Merci beaucoup, frère Jean-Michel Bortailleri.